Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et c'est toujours sur le 102.2 de Radio Canu, bien entendu. Et on vous dit à tout de suite après le générique. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est Idées Noires, hein, comme tous les mercredis, de 20h à 21h. Et vous venez d'écouter à Las Barricadas, c'était presque ça cet après-midi.
Oui, pardon, je rigole, mais quelqu'un qui a fait tomber son micro, ça fait toujours rire. Quand c'est pas sur toi que ça tombe, c'est ça, voilà.
Ça casse bien ce que j'étais en train de dire, mais enfin bon, tant pis, qu'est-ce que tu veux. Je disais à Las Barricadas.
Excusez-moi.
C'était presque ça cet après-midi, Las Barricadas à Lyon, avec cette manifestation dont on va parler tout de suite après. On va commencer par quelques annonces, Julien, si tu en as, ou si c'est moi qui commence.
Commence par...
Alors, je commence par du festif, en fait. Ça sera pour demain, donc ce jeudi 10 mars 2016, et ça sera à 19h au local de la CNT, 44 rue Burdeau à Lyon, dans le 1er arrondissement. La CNT qui nous propose une rencontre débat autour d'un livre, « Les ouvriers ne seront plus des orang-outans ». Qu'est-ce que ça cache? Ce sont des paroles ouvrières, hein, les paroles ouvrières des Canus, donc avec Raphaël Perret, qui est l'auteur de cet ouvrage, et qui sera donc sur place à la CNT rue Burdeau demain à partir de 19h. Nous avons aussi dans le festif un autre camarade là qui se produit, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est le Udger Royo, hein, Serge Udger Royo, que tout le monde connaît. Ça sera ce vendredi 11 mars à partir de 20h30 au Palais de la Mutualité, place Antonin Jutard, dans le 3e arrondissement. Vous pouvez y accéder avec le métro Guillotière, donc il viendra nous chanter quelques chansons de son répertoire.
C'est pas très loin du local du PS, si vous voulez y passer avant.
C'est le local du PS aussi.
C'est pas très loin. Allons, j'ai vu ça comme ça, moi, après.
Voilà. Je sais pas si ça sera la soirée. Pour
je ne sais pas.
Bon, enfin, bon, bref.
L'occasion, après.
C'est possible. Tout est possible. Donc, voilà, ça sera demain, vendredi, pardon, le 11 mars à 20h30. Voilà, j'en ai fini pour mes deux petites annonces à toi, Jude.
Ouais. On va faire un petit point sur toutes les mobilisations qui vont arriver avant de faire un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était une belle journée, un peu pluvieuse, un peu de vapeur de lacrymo et compagnie, voilà. Oh, mais du coup, il y a quand même du monde ce soir, malgré tout, avant de s'effondrer totalement en fin de soirée. Voilà, pour vous dire que ce samedi, on part direct avec une mobilisation, un appel national contre l'état d'urgence, la nouvelle loi sur le terrorisme, etc., etc. Donc sur Lyon, c'est appelé donc samedi à 14h30 à place des Terreaux. Alors voilà, c'est rassemblement au départ puis manifestation vers la place Bellecour. Pour vous dire qu'en fait cet appel national, c'est en fait un appel de deux collectifs qui existent sur Paris. Un collectif s'appelle Nous ne céderons pas, si je me trompe pas, à la base à l'appel de la LDH, et un autre collectif s'appelle Stop État d'urgence, dont la CGA au niveau fédéral est soutien. Donc il nous semblait logique pour nous à Lyon de signer le texte d'appel pour cette manif là. Donc il aura lieu samedi, donc on vous redonne rendez-vous pour ceux qui étaient là aujourd'hui ce samedi 12 mars, tout en sachant que voilà, si on va dans la rue, enfin notamment fin de manif aujourd'hui, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais j'anticipe un petit peu, mais que du coup aujourd'hui c'était pas non plus que contre la loi travail, il y avait aussi d'autres slogans par rapport, voilà, hein, des trucs plus globaux, voilà, l'état d'urgence et compagnie. Donc ça peut être le cas aussi forcément ce samedi. Donc on vous donne rendez-vous À 14h30, place des Terreaux. Voilà, vous reconnaîtrez un petit drapeau noir ou noir et rouge. Donc n'hésitez pas à rejoindre le cortège. Pour ceux qui étaient là aujourd'hui, vous avez vu que c'est assez dynamique. Je vous lis pas l'appel, il est trouvable sur le net, mais en gros, ça reprend un petit peu celui qui avait eu pour la dernière manif du 6 février, enfin du 30 janvier, du 6 février. Vous avez un problème avec votre micro, c'est ça ?
Oui, non, un problème avec mon casque.
D'accord. Bien parce que j'ai piqué le tien et il marche très bien. Donc je continue, donc ça c'est le 12 mars. Le 15 mars, il y a une mobilisation pour la sauvegarde de la Convention collective nationale 1966. Donc c'est métiers sociaux et médico-sociaux. Le rendez-vous c'est 13h devant le siège de l'ADAPAI du Rhône, pardon, c'est cours Albert Thomas. Numéro exact, je crois que c'est le 13, mais bon, vous allez trouver assez facilement. Au pire, vous allez voir les infos sur le net, vous allez trouver aussi. Je vous cause juste deux secondes par rapport à cette convention collective. En gros, les syndicats employeurs qui s'appellent Cineas et FEGAPI ont un projet de fusion pour ne faire qu'une organisation patronale et de créer un nouvel environnement, comme ils appellent conventionnel, qui détruirait de facto la convention collective nationale 66, avec une remise en cause des métiers au profit de fonctions et de compétences, de baisser et d'individualiser les salaires, de modifier la progression d'ancienneté par l'introduction d'une part variable de salaire au bon vouloir de l'employeur, de supprimer les congés trimestriels et d'ancienneté, de remettre en cause les accords RTT, quoique du bonheur. Il y avait déjà une manif le 25 juin dernier qui avait mobilisé quelques milliers de personnes sur Lyon. Et là, le coup, bah, c'est pour les 50 ans de la convention, ce 15 mars. C'est pour remettre un coup de pression sur les organisations patronales pour montrer que les salariés sont contre cette transformation et de la destruction de la convention. Ça avait déjà été le cas pour la convention 51. Le but, à terme, c'est que les patrons vont faire une proposition qui sera inacceptable pour les syndicats, peut-être pas pour tous, mais au moins pour la plupart, ce qui veut dire qu'ils dénonceront cette convention collective, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de convention au bout d'un certain temps, ce qui veut dire qu'on dépendra du code du travail, et ça veut dire qu'on dépendra de la nouvelle loi du travail, c'est formidable la vie quand même. Donc voilà.
Il faut faire quelque chose. Hein.
Mais exactement. Donc on vous donnera, du coup, on vous donne rendez-vous, voilà, aussi le 15 mars, à 13h devant le siège social de l'ADAPAI du Rhône. L'ADAPAI du Rhône, c'est l'un des plus grands... plus grande assos du médico-social du Rhône qui regroupe 1600 salariés. Ensuite, que j'enchaîne. Alors, on a appris tout à l'heure que UNEF, que vous pourrez tracher tout à l'heure si vous le souhaitez, hein, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, l'UNEF, a priori, appellera une nouvelle mobilisation contre le travail le 17 mars. Bon, ça reste après, voilà, à voir hein, ce que ça donne. Je continue donc avec une grève dans la fonction publique le 22 mars. Une grève nationale à la Poste le 23 mars et une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle le 31 mars, si d'ici là la loi n'est pas retirée. Ce qu'on peut douter, mais voilà, on ne sait jamais. Monsieur Valls, notre cher Premier ministre, a annoncé tout à l'heure qu'il allait revisiter le texte ou le réécrire ou je ne sais pas quoi. Ma foi, ça ne suffira pas pour faire la contestation, hein, mais s'il veut espérer ça, on peut toujours. Je voulais vous lire très vite fait, parce qu'on a peut-être plus parlé de ce qui se passe aujourd'hui. Du coup, je ne vais peut-être pas vous le lire parce qu'on va prendre de l'avance un petit peu. Ah, j'hésite. Champagne Station. En fait, vous pouvez trouver sur le site de la CGA Lyon un texte écrit par la commission syndicale de la coordination des groupes anarchistes Lyon. On vous le rappelle, on fonctionne sous forme de front de lutte avec des thématiques spécifiques, syndicales, antipatriarcales, antiracistes, une commission jeunesse, une commission vie du local qui est ouverte du coup aux sympathisants et sympathisantes. Donc en gros, il faut être d'accord en globalité avec ce qu'on propose, mais on n'est pas obligé d'adhérer à la CGA pour pouvoir participer à ces fronts de lutte, ce qui permet d'ouvrir un petit réseau et puis permettre à tout le monde de participer. Et donc, il y a un texte qui a été écrit par la commission syndicale sur la loi de travail. Je vous laisse donc aller voir sur le site. Je peux juste vous lire la fin éventuellement, parce que le dernier paragraphe, c'est « Que faire pour construire le rapport de force ?» Eh ben, travailleuse isolée, s'organiser collectivement en recherchant les collègues réceptifs et réceptives à l'action collective, s'appuyer sur les unions locales syndicales qui regroupent les travailleurs et travailleuses d'une localité. Pour les travailleuses et travailleurs en grève, militants et militantes syndicalistes, développer des contacts avec les travailleuses et travailleurs des entreprises environnantes, entre militants et militantes syndicatives combatifs et combatives. Développer l'entraide pour organiser des piquets de grève volants ou à l'entrée de sites industriels ou parcs d'entreprises, des actions de mobilisation collective, distribution de tracts par exemple, ou visant à perturber les flux de marchandises, c'est ce qui marche le mieux notamment. Organiser des assemblées de bassins regroupant syndiqués et non syndiqués pour fédérer les actions collectives locales. Développer collecte militante et caisse de grève pour organiser une lutte prolongée. Travailleuses et travailleurs au chômage, retraités, au foyer, rejoindre les initiatives collectives par bassin, action collective devant les pôles emploi pour mobiliser les travailleuses et travailleurs sans emploi. Pour les travailleuses et travailleurs en formation, apprentis, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, blocage des CFA, des lycées, des universités. Et cibler les institutions patronales, MEDEF, etc. pour des actions collectives de blocage et ou d'occupation. C'est sûr, je viens d'occuper les locaux du MEDEF, c'est rigolo. Donc voilà, nous devons absolument nous organiser pour exiger le retrait de cette loi. Cette mobilisation pourrait être le départ, celle d'aujourd'hui, d'une convergence de lutte bénéficiaire à toutes et à tous. C'est pour ça qu'on vous invite à vous rendre à toutes les dates qu'on a citées tout à l'heure. Tac, tac, tac. Je vous propose aussi un petit texte trouvé sur le net. Vous tapez sur le net projet de loi travail non à la double peine pour les femmes. Très bon petit texte, je vous le conseille. Et du coup, j'ai peut-être bientôt me taire. Et on va faire un petit.
Je peux garder des trucs pour la fin, on verra si on a un peu de temps.
Mais tout à fait, mais tout à fait. Je n'y citerai pas. Non, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y avait appel à mobilisation au départ par les organisations de jeunesse.
Ouais.
Voilà, qui a été rejointe ensuite par les syndicats, notamment CGT, FO. FSU et Solidaire, si je ne me trompe pas. Et donc, il y avait un rendez-vous à Lyon à 13h à la place Bellecour. Donc, ça a commencé un peu plus tôt, a priori, au niveau de certains lycées. Lycée Lumière, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, notamment.
Lumière, oui, alors les lycées, moi, je ne sais pas trop.
Chabrières à Oullins.
Chabrières, il y a eu Saint-Jules qui a été bloqué. Il y a eu le lycée Lumière qui a été très efficace. Au début, au lycée Lumière, il y a eu des... semi-interpellation, on va dire, quatre lycéens qui ont été chopés et emmenés dans le bureau du proviseur.
Pour être grondés.
Pour être grondés pendant qu'il y avait 100 lycéens qui bloquaient le lycée. Donc c'était, voilà, je sais pas trop les suites, quoi. À Chabrières, je crois que c'est à Chabrières, hein, je veux pas dire de bêtises, mais a priori à Chabrières, le proviseur a frappé un élève. Mais ça a été filmé, du coup, je pense qu'il sera plus proviseur très longtemps.
Bah, surtout qu'après, il y a un élève aussi qui va être convoqué en conseil de discipline, voilà, parce qu'il y a eu quelques échauffourées, suite à ça, hein, voilà. Ouais, donc, à surveiller de près. Du coup, s'il y a une mobilisation là-bas sur ce lycée-là, j'espère que les autres lycées se bougeront, ils iront aider, en solidarité, tout ça. Nous, on n'hésitera pas à le faire non plus. Du coup, il y a eu une manif de lycée, lycéen, lycéenne ce matin, un petit peu.
Et, tout à fait, il y a eu plusieurs manifestations qui se sont jouées en cortège, qui sont parties à partir de 10h, qui ont rejoint, même un petit peu avant 10h pour se rejoindre de lycée en lycée. Ensuite, ils ont rejoint les étudiants, dont on va parler un petit peu après avec le copain. Je pense qu'on est un peu plus calé dessus.
On va pas parler du lycée Colbert et Martinière aussi. Hein.
Ouais, Colbert et Martinière qui ont été rejoints en fait par notamment lycée Lumière, Chabrières et tout, qui ont été rejoints et qui sont débrayés à ces moments-là. Je sais pas s'il y a eu blocage dès le matin dans ces lycées-là, mais en tout cas, ils étaient hyper mobilisés aussi. Et voilà. Et du coup, ils ont rejoint les étudiants. Donc nous, au niveau, moi et le copain au niveau étudiant. On s'est retrouvé. Il y a eu une assemblée générale en fait hier pour préparer la journée d'aujourd'hui au niveau des étudiants. À la fac de Yondeau, tout à fait. Et on s'était donné rendez-vous sur Bron et sur les quais à 7h20. Donc sachant que cet appel participe les jeunes libertaires de Lyon évidemment, mais au niveau syndical, Solidaire étudiant et théoriquement l'UNEF. Ce matin, on arrive massivement des jeunes libertaires. On arrive massivement à la faculté. Et on voit sur les portes de la fac de grandes affiches de l'UNEF. De grandes affiches de l'UNEF qui appellent à voter pour les élections étudiantes.
C'est les élections, aujourd'hui et demain.
Aujourd'hui et demain, c'est les élections
pour les facs. À la fac.
Alors bon, on se dit, c'est pas très cool, quoi. Et on arrive et il y a des militants de l'UNEF déjà sur le piquet, décidément, quel révolutionnaire glorieux et discipliné, en train de distribuer des tracts pour les élections étudiantes.
Et non pas pour la MEC.
Bon, alors on s'est un petit peu pris la tête, mais ça montre bien que l'UNEF, ça est toujours un syndicat de traîtres, de social traîtres.
Ils avaient vraiment collé dans toute la fac. Quand ils étaient à toutes les entrées, quand les étudiants et les étudiantes arrivaient, et quand on a commencé à faire le tour des amphis, on s'est rendu compte qu'ils le faisaient aussi, et donc pour les élections.
Et pas pour la mobilisation.
On s'y retrouve aujourd'hui avec l'UNEF qui a été foutu très loin derrière. Il y avait un drapeau tout seul qui se baladait devant en mode perdu. Bon, mais voilà.
Du coup, il y avait le rendez-vous à midi pour un pique-nique Bellecour, pour un départ après théorique à 13h pour la manif. Bon, qui est parti plus vers presque 14h, mais c'est normal, hein, faut attendre qu'un peu de monde qui arrive.
C'est tard que ça, hein.
Ouais. Et, du coup, avec, plutôt une bonne surprise, puisque beaucoup de monde, une réussite, c'est-à-dire à réussir à mettre, l'UNEF et je sais pas qui,
toutes les orgues réformistes.
Voilà, de les mettre derrière et pas devant. Donc ça, c'était plutôt une réussite aussi pour que le cortège était assez dynamique. Mmh. Le cortège, appelé par aussi les jeunes libertaires Lyon, a été bien.
Les jeunes libertaires Lyon, c'est le Front Jeunesse de la CGR.
Bien péchu, avec pas mal de monde, donc c'était plutôt plaisant. Au niveau des chiffres, ça se bat comme d'hab sur les estimations. Ouais. Voilà, les flics annoncent 7000 et ils sont pas sympas sur ce coup-ci. Franchement, vu la gueule du cortège qui s'étalait quand même voilà sur presque une bonne partie de l'avenue Berthelot sur la fin du cortège. On peut au moins compter sur le double, voire un peu plus.
La CGT annonce 30 000.
Voilà, ce qui est plutôt sur Lyon, qui est c'est plutôt assez rare ce chiffre-là voilà, pour des manifestations. Tout en sachant que c'est la première mobilisation contre ce projet qui devrait du coup enchaîner sur une dynamique.
En tout cas, c'est sûr que un peu plus, pour l'instant les chiffres, on sait pas trop, mais j'entendais donc à l'émission précédente tout à l'heure qu'a priori quand le tout début de la manifestation est arrivé à Jean Massé, donc au point final, il y avait encore les toutes dernières personnes qui parlaient seulement de Bellecour.
D'accord. Donc ce qui fait quand même le gros cortège peu, quoi. Donc voilà, donc s'en est suivi, donc la manif était prévue jusqu'à Jean Massé, il était prévu ensuite de partir en cortège pour aller à une assemblée générale qui était prévue à la Bourse du Travail. Il y a eu quelques échauffourées au niveau de la Guillotière, puisque la police, bah, bien évidemment, protégeait le local du PS qui se trouve dans le coin. Dans d'autres villes de France, il a été attaqué, hein, peinture ouais. et compagnie, enfin voilà, plutôt plaisant le truc. Bon, ce sera pas pour ce coup-ci à Lyon, mais bon, on suppose que dans les jours qui viennent, dans les nuits qui viennent, des personnes vont s'en occuper. Je dis on parce que on s'englobe dans tout le mouvement, voilà, qu'il y avait aujourd'hui. Ouais, tu vois, je me rattrape comme je peux. Je serai chez moi. Et donc du coup là, voilà, quelques chauffourées. Les flics ont commencé à mettre la pression. Tir lacrymo, tir flashball, etc., etc. A priori 3 arrestations. On va surveiller ça de près aussi pour la solidarité. Quand même une petite bonne nouvelle, un baqueux de blessés. Ils ont dû intervenir pour lui.
Et la mauvaise nouvelle, c'est que, a priori, un lycéen, je crois, s'est pris un tir de flashball dans les testicules. Donc,
Plus un coup de matraque sur la gueule, quelqu'un en urgence aussi. Donc, on va surveiller tout ça aussi près. Tout en sachant, voilà, ils ont aussi voulu casser le mouvement à la base, hein, savoir, ils savent que du coup, s'ils font un peu peur, s'ils trachent un peu, notamment les lycéens, parce que du coup, ils peuvent être repris aussi par leur triage. Enfin, c'est logique, hein, quand vous allez au casse-pipe, quand ils envoient les flics essayer d'envoyer les gens au casse-pipe, bah, du coup, voilà, forcément derrière, ça freine un petit peu, ça fait peur. On espère que ce sera pas le cas, sachant qu'il y aura plein de mobilisations qui viennent, donc faut pas hésiter à venir à toutes les mobilisations, on le répète, qui ont lieu sur ce mois de mars et qui permettront, du coup, d'amplifier déjà chaque mobilisation spécifique et de pouvoir après faire une grosse mobilisation sur la fin du mois. Je sais pas s'il y a d'autres choses du coup pour aujourd'hui.
Quelques petites peut-être prises d'ambiance entre guillemets pour raconter vraiment ce qui s'est passé dans le détail sans être trop long, mais
j'espère.
On l'a mis en manifestation, il y avait quand même beaucoup de monde. Nous, les jeunes libertaires de Lyon, on était assez assez devant quand même, donc c'était vraiment cool. Et on a manifesté notamment avec les lycéens et lycéennes de Lumière massivement, qui étaient à notre niveau, avec des slogans ultra dynamiques. Il y avait des slogans normalement plutôt mous qui ont été changés en mode assez cool politiquement, comme au lieu de dire Hollande t'es foutu, on disait Patronat t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. et puis des trucs un peu classiques, jeunesse précaire fière et déterre, jeunesse prolétaire fière et déterre, jeunesse révolutionnaire fière et déterre, jeunesse libertaire fière et déterre. Voilà.
Il l'a placé.
Tu as suffisamment.
Je pense qu'il va le placer ce soir. Ouais.
Et c'était mon but. Et après effectivement c'est parti en manif sauvage et à partir de ce moment-là c'était un petit peu compliqué. En réalité, je ne sais pas si vraiment qui que ce soit savait vraiment où on allait à ce moment-là. C'est un petit peu la panique. On est remonté avec les jeunes libertaires pour aider le faible SO qui était en haut, sachant qu'on a été à ce moment-là lâché plutôt par la CGT, même s'il y avait des gens de la CGT avec nous. Mais voilà. Et arrivé place du pont, c'est ça ? Enfin, à Guillotière, quoi.
Ouais, à peu près. Ouais.
Il y a eu un premier blocage et on a essayé de passer parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, donc on a essayé de passer en formant une ligne. Voilà, mais ça n'a pas été ultra bien suivi. Il y a eu des coups de matraque, des gaz lacrymogènes. Et du coup, ils nous ont laissé nous engouffrer sur le pont. Le cortège avançait tout seul. C'était compliqué de l'arrêter, même si évidemment ça sentait le piège à plein nez. Et arrivé à Bellecour, grosse rangée de CRS partout. On était bloqué.
Bloqué le boulevard de la République.
On était bloqué à ce niveau-là. Donc on a refait une ligne pour protéger le cortège. Donc là, on a eu secours des Yedégué, bon, qui étaient déjà avec nous à Guillotière. Et on a eu le concours du coup des jeunes communistes de Lyon. Et on a tenu la ligne pendant un bon bout de temps. Il y a eu quelques échauffourées rapides. Et puis d'un coup, ils ont balancé.
Ah, disons que quand ça a commencé à s'échauffer, on s'est tout de suite pris les grenades lacrymo, donc c'était un peu plus...
Ils ont balancé un nombre vraiment hallucinant de bombes lacrymo, quoi. Et du coup, de grenades lacrymogènes, et du coup, on a essayé de... Enfin, tout le monde, il y a eu un mouvement de panique, on a reculé en tenant la ligne, et puis au bout d'un moment, c'était plus possible, quoi. Il y a eu des gens qui ont fait des... et crise d'asthme, etc. Enfin, c'était vraiment, on voyait pas un médecin quand même, quoi. C'était fou.
Voilà. Donc voilà, donc bah, on espère que ça va continuer, pas le, le gaz lacrymogène, mais même ça s'accompagne souvent sur les fortes mobilisations sociales, et quand ça chauffe un peu, bah, forcément, ça reste un moyen de défense.
Ça, ça reste la réponse
de l'État et du patronat. Donc voilà, on a l'habitude, malheureusement, même si pour certains et certaines c'était un petit baptême aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, faut bien démarrer. Hein. Donc voilà, on le répète encore, on vous donne du coup rendez-vous sur toutes les mobilisations là du mois de mars. Puis n'hésitez pas, vous, dans vos, voilà, comme je disais tout à l'heure, un peu de partout, hein, que ce soit lycée, fac, boîte, bah, de continuer à faire le travail d'information, de pédagogie sur cette loi et sur toutes les autres mobilisations pour que vos collègues, vos voisins, vos amis, etc. prennent conscience de ce qui se passe et de la gravité de cette loi-là, notamment. Et voilà, on espère que ça va bouger, qu'il y aura un retrait pur et simple du projet de loi et pas...
Et pas
un effet d'entourloupe de... avec, avec la CFDT et la signature d'un texte avec deux ou trois points qui seront enlevés, mais le reste serait gardé. Donc, on vous, bah, on vous invite, si vous jamais aussi, si vous voulez dire bonjour aux gens de la CFDT qui normalement doivent se rassembler le 12 mars, on ne sait pas encore où, mais n'hésitez pas à y aller avec une de banderoles si vous le souhaitez, hein, voilà, pour leur rappeler un petit peu ce que c'est le syndicalisme et ce que c'est la vraie lutte. Je dis ça, je dis rien.
Il y a eu dans une ville de France, alors je ne sais plus laquelle, mais un mini rassemblement spontané de la part de la CFDT, ils étaient 8.
Ouais. Ce qui peut montrer aussi, voilà, le, la force qu'ils peuvent avoir dans la rue. Donc, on avait programmé une petite salle de lutte sociale.
C'est vrai.
On démarrait avant une première pause musicale.
C'est vrai.
Et dis-moi.
Non, vas-y.
Et du coup, ce qu'on fera après la pause musicale, on fera un petit point du coup sur ce qui se passe et ce qui s'est passé à Calais. Donc voilà, avec quelqu'un qui était là-bas. On fera un petit point aussi sur ce qui s'est passé à Paris, notamment lors de la manif du 4 mars. Donc voilà, le petit programme pour la suite de l'émission. Je vous laisse enchaîner sur les luttes.
Alors,
sociales.
Des luttes, vous en voulez, ben voilà, on va commencer par le, par Val d'Isère. C'est intéressant, Val d'Isère, à cette époque, c'est la The Big Station de nos vacances d'hiver. Enfin, de vos vacances, parce que moi, personnellement, je ne vais pas skier sur les pentes blanches. Donc, c'était une grève, enfin, des pisteurs qui étaient en grève. Et bien, je vous dirais, pourquoi pas, hein? Sont des travailleurs comme les autres, eh ben, qui exigent une revalorisation de leurs qualifications et de leur salaire, 150 euros et 150 euros net, soit 20% de mieux sur leur salaire mensuel. À Rouen, avec un foyer d'accueil, les Papillons Blancs, foyer pour personnes handicapées, c'était le 29 février, avec une grève des travailleurs de, et travailleuses de l'association sur 4 établissements et dénoncer les conditions de travail. Une grève postale maintenant, bah, y en a tous les, je dirais tous les mercredis, on vous en annonce. Cette fois, c'est à Montpellier, en ce 1er mars, avec Sud PTT et la CGT pour contester la durée de leur tournée. Donc toujours les conditions de travail en question, hein, à la poste. Mulhouse, c'est chez PSA cette fois, avec des débrayages. Vous me direz, pour un fabricant d'automobile, des débrayages, c'est normal. Eh bien, la direction offre 8 euros
mensuels. Joli jeu de mots.
Oui, hein,
excusez-nous.
Oui, ouais. De temps en temps, je le fais. Voilà, ouais, comme ouais, ça, je Donc, je finis avec Mulhouse. Y avait des débrayages pour 8 euros mensuels. C'est à revoir aussi de ce côté-là. À Notre-Dame de Briançon, c'est Carbone-Savoie, avec une grève au 1er mars, et les salariés sont à l'écoute et suivent pas à pas leurs affaires après 12 jours de grève, avec une conclusion, c'est que la direction ne tient pas ses engagements. Conclusion, eh bien, rebolote jusqu'à ce que mort s'en suive, du moins pour les responsables du merdier. Idem pour les travailleurs de la Coperle. Coperle, c'est une coopérative, hein, je rappelle, de Lamballe dans les Côtes d'Armor, une industrielle, une entreprise industrielle du port, c'est-à-dire de la casemate à votre assiette. En ce 1er mars, il et elle étaient rassemblés à Langueux pour impressionner la direction qui était en réunion à propos des rémunérations qui étaient, on va dire, plutôt à la baisse. Et puis aussi à Marle-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, c'est une illimitée cette fois, une grève illimitée chez Forestia, équipementier automobile, pour palper un peu des bénéfs. Blocage des entrées, piquet de grève, il faut bien ça. Et je dirais même que c'est à remettre à la mode et rapidement. à Trappes dans le 78, c'est une plateforme de la famille Muliez-Auchan qui était en grève. Les magasins en Île-de-France ne sont plus approvisionnés depuis quelques jours. En fait, la plateforme et les salariés sont du groupe, ils sont pas de chez Muliez, hein, ils sont du groupe XPO Logistique. Et ceci, donc les salariés protestent contre une réduction de l'effectif qui atteint 50% apparemment. Ils se font on va chier, hein, les mecs qui bossent là-dedans. À Vennes, les Aubers, c'est dans le Nord, avec un sous-effectif ici aussi, à la cantine du collège Paul Langevin. Grève qui s'en est suivie parmi le personnel de cuisine et de l'entretien. À 40 ans, dans le 40 ans, ah, le bel âge. Non mais là, c'est une ville, hein, c'est dans la Manche. Une plateforme courrier qui était en grève. C'est la CGT, FO et Sud là qui s'y sont mis. 40%, 45% de suivi contre une réorganisation des tournées. Une réorganisation des tournées assassine. À Saint-Cybar, c'est dans les Charentes. C'est en fait c'est Angoulême, hein, tout bonnement. Là cette fois c'est Intermarché avec un magasin Intermarché avec un nouveau dirlo, une ouverture le dimanche, une déléguée CGT, une déléguée syndicale CGT qui est virée. C'est la nouvelle méthode des patrons pour contrer donc les récalcitrants et les récalcitrantes en passant par évidemment les chefaillons d'équipe, des méthodes donc dignes du 19e, comme disait un certain Valls, et aussi, bien sûr, maintenant, les patrons, pourquoi se gêneraient-ils ? Mourenx, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, avec une plateforme encore une plateforme. Chem Paul, ça s'appelle, c'est une grève donc chez la société Spechim. Eh ben là vous avez compris, hein, tout est dans le titre, hein. On est dans la chimie avec 9 jours de grève au 3 mars pour aboutir dans des négociations sans fond. 100 euros dans un premier temps était exigé et pour 2016 et 2017, mais ça a été revu et corrigé à 200 euros sous forme d'une prime mensuelle, sachant, ben, je le répète, hein, que les primes, ben, ça se supprime. Et puis, pour terminer cette première page, c'est à Caudebec, les Elbeuf. C'est dans Seine-Maritime avec un délégué McDo, encore un, donc, qui est embêté par la direction, je dis embêté parce que je suis poli, par la direction, comme il se doit, donc, qui a été agrémenté d'ailleurs, ses embêtements par 2 jours de mise à pied, qui ouvrira toute grande la porte à un licenciement. Ah ben, la faute de ce délégué syndical, ben, c'est d'être trop proche des salariés. Et ça, les patrons de chez McDo, ils aiment pas du tout, du tout. Alors, selon le délégué CGT en question, dont l'élection avait quand même amené l'obtention d'un 13e mois, eh bien, il y a eu rassemblement en soutien pour sa personne. Voilà, je ne sais pas encore si ça aboutit. Voilà pour cette première.
Pardon, excusez-moi. Oui, bah écoutez.
Je vous en prie.
Oui.
Que dites-vous ?
Presque plus de voix, ouais, mais c'est le temps d'aujourd'hui, là. Oui. C'était pas terrible.
Vous voulez enclencher sur quelque chose ?
Non, je pense qu'on va faire la petite pause musicale et puis je garderai ça au chaud pour une prochaine fois, s'il le faut.
Ah bah, comme tu veux. Sinon,
c'était un petit mot d'amour sur la CFDT, mais.
Micro open, hein, quand même. Hein,
ouais.
Ce soir. Hein,
allez, j'y vais vite fait alors.
Il y a pas mal de choses.
Petit truc trouvé sur le Canard enchaîné. Avec du coup une décision tombée brutalement le 11 février, ça remonte un petit peu, mais voilà, la direction de la CFDT a mis sous tutelle son syndicat du commerce d'Île-de-France, l'un des 20 plus importants de la Confédération avec 4500 adhérents. Laurent Berger, donc le chef de la CFDT, n'y est pas une main morte. Le siège de syndicat, jusqu'à présent implanté au cœur du quartier des grands magasins, est transféré dans des locaux de la Confédération et la situation des délégués sera, entre guillemets, réexaminée dans le cadre de cette administration provisoire. En clair, leur mandat peut sauter et leurs patrons auront le champ libre pour les virer. Auraient-ils tapé dans la caisse ou pire, rénové leur appartement aux frais du syndicat ? Petite blague. En fait, le coup près s'est abattu au lendemain d'une lettre adressée à Emmanuel Macron par l'Alliance du Commerce, le syndicat patronal qui représente les galeries Lafayette, Le Printemps, Le Bon Marché et BHV. Dans ce courrier, les patrons des printemps, pas facile à dire, des principaux magasins de la future zone touristique internationale, entre guillemets, hein, sonnait le tosquin au sujet de l'un des amendements de la loi Macron. Celui-ci prévoit que même dans les zones touristiques, le travail du dimanche devra passer par un accord social, notamment sur les compensations salariales. Mais donc cet accord, on en a déjà parlé sur des émissions, ne peut pas s'appliquer si les syndicats représentant au total plus de 50% des salariés s'y opposent. Or, dans ce secteur des grands magasins, la CGT et la CFDT réunies dépassent largement ces 50% aux élections et sont résolument hostiles au travail du dimanche. Ces deux syndicats ont même fondé conjointement le CLIC-P, une structure intersyndicale qui milite justement contre le boulot dominical et n'ont pas hésité à traîner devant les tribunaux les patrons qui en usaient illégalement. Les deux confédérations risquaient donc de négocier durement, voire de bloquer tout accord. En plaçant pour un an son syndicat sous tutelle, Laurent Berger retire une terrible épine du pied d'Emmanuel Macron, puisque dans aucune des boîtes concernées, la CGT ne dispose à elle seule de la majorité absolue. Sûr que les patrons des grands magasins vont lui élever une statue. Bon, on propose du coup aux gens qui sont à la CGT, qui sont dégoûtés, de partir de la CGT massivement et de rejoindre d'autres syndicats plus combatifs, de lutte de classe. Voilà, on peut faire la pause.
Donc, petite pause musicale, on va écouter les Salles Majestés. Qui nous interprète, c'est d'époque, hein, chant d'honneur, c'est toujours dans le truc
antimilitariste. La compilation antimilitariste.
Voilà, compilation, merci. De rien. Chant d'honneur, donc, c'est parti.
Je suis tombé ce matin au chant d'honneur. Quelle connerie je voulais dire. Oui, mes frères et sœurs. C'est la victoire en chantant. Promettait le président, mais c'est la mort au tournant qui nous a pris nos 20 ans. J'aurais mieux fait déserter juste pour te retrouver, même si c'est salaud de gravé, j'aurais sûrement fusillé. J'aurais mieux fait déserter juste pour te retrouver, même si c'est salaud de gravé, j'aurais sûrement fusillé. Et je meurs lentement.
Voilà, voilà, oui, on avait un petit, on a fait un petit aparté tout de suite pendant cette musique où il y a un propos homophobe qui est intervenu dans cette chanson.
T'apprendras à pas écouter les chansons avant de les passer.
Et ben voilà. Ceci dit, j'ai de très bons amis gays qui en ont rien à faire de se faire traiter enculé parce que bon, voilà. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Voilà. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu. On va continuer par.
Non mais faut, on est un peu fatigué aujourd'hui, hein. Mal à la gorge, tout ça. On a beaucoup marché. On s'est fait secouer. Donc on continue avec une copine qui descend de Calais que je vais laisser se présenter. Et puis si tu veux, tu peux commencer tout de suite. Tu te comme tu veux. Tu peux commencer tout de suite à nous parler de ce qui s'est passé récemment avec le début des expulsions.
Oui, alors l'expulsion a commencé lundi dernier, lundi matin. Donc ça, a priori, ça s'est déroulé plutôt dans le calme, puisque des cordons de CRS sont arrivés avec des agents de la préfecture. Et des agents de l'association bien nommée SOS Solidarité. Et donc les CRS formaient un cercle, un périmètre assez large autour des abris qui étaient à détruire, de sorte que les sans-papiers et les soutiens associatifs ne pouvaient pas être proches des personnes qui allaient être expulsées. Donc en gros, les agents de la préfecture et d'SOS Solidarité arrivaient aux abris, frappaient aux portes, réveiller les gens en leur disant « Bonjour, on va détruire votre abri, vous avez une heure pour quitter les lieux. Si vous voulez, on peut vous trouver, on vous propose un logement dans un CAO, et ce jour-là, c'était Montpellier qui était proposé.
D'accord. Ouais.
Ou pour des gens qui ont pour objectif de passer en Angleterre, pour l'immense majorité d'entre eux, Montpellier, c'est...
C'est un peu à l'opposé, il me semble.
Ça fait un peu loin. C'est un peu loin. Donc ça, c'était au début, et puis au fur et à mesure que la journée avançait, et se rendant compte que les gens n'étaient pas très disposés à partir... Il y a toutes sortes de mensonges et d'approximations qui leur ont été dits, du genre « il faut que vous quittiez votre abri, les conditions de vie dans lesquelles vous êtes sont indécentes, on va vous offrir une maison, etc. » Et ils ont vraiment joué la pression psychologique jusqu'au bout, puisqu'il y avait des groupes de 10 personnes à un moment qui attendaient à l'entrée des cabanes jusqu'à ce que les gens daignent sortir, quoi. Et donc, il y en a quelques-uns qui étaient réfugiés sur les toits, tenus en joue pendant des heures au flashball par des CRS, jusqu'à ce que certains finissent par lâcher, soit descendus manu militari du toit de leur abri. Donc voilà, pour qu'à la fin de la journée, ça s'embrase un peu, puisqu'il y a quelques cabanes et caravanes qui ont pris feu du fait des forces de l'ordre ou des sans-papiers eux-mêmes, on ne sait pas trop. C'était assez confus.
C'est un peu le fait divers dont la presse a plus parlé en fait que le démantèlement en fait de la partie sud des campements, en fait, ce qui était assez hallucinant.
Ça a permis d'étouffer un peu.
Voilà, étant donné que la tour va être le petit incident, le petit affrontement qui fera que voilà. Du coup, on parlera plus de ça plutôt que de la situation des personnes qui sont là-bas.
On a vu d'ailleurs que les FAF accusaient les militants de No Border d'avoir mis le
forcément,
feu.
Ils sont responsables un peu de tout.
Juste une mise au point sur ce que les médias, la préfecture appellent le collectif No Border. C'est une espèce de mythe insaisissable, agité pour faire peur à tout le monde là-bas. Je veux dire, No Border, c'est pas un collectif assumé et revendiqué, c'est une idée politique. Donc n'importe qui d'une association ou activiste indépendant peut parler, se revendiquer des idées No Border, mais ça c'est vraiment une approximation de la préfecture. Dès qu'il y a quelque chose à reprocher aux associatifs, on agite le spectre No Border, mais ça ne veut strictement rien dire.
Et puis ça permet de mettre tout le monde dans le même sac.
Oui, exactement, et de noyer le poisson, de ne pas faire attention à quelles sont les valeurs défendues derrière le mot No Border, quoi.
Donc toujours la même situation là-bas. Bon, c'est que voilà, du coup, ils essaient de les bouger un peu partout en France, les centres de répit pour essayer de les éloigner un petit peu de Calais pour vider un peu là-bas les campements et tout ça.
On avait appelé ça la stratégie du ping-pong entre Ventimille et Monton.
C'est un peu la même chose
qui est en train de se passer.
Les envoyer un peu plus loin, tout sachant que ces personnes-là reviendront de toute manière parce que leur but effectivement c'est de traverser et d'aller en Angleterre. Après, il y a toute la mobilisation là-bas. Il y a aussi un copain là qui est revenu assez récemment, donc il nous a raconté un peu comment ça se passait. C'était plutôt bien au niveau logistique, au niveau des campements, etc. L'aide, la solidarité, le partage, etc. Donc c'était plutôt intéressant, tout en sachant que voilà que aussi l'État, les flics sont là aussi pour casser la solidarité, en évacuant les camps, en cassant un peu tout. Bah ils savent que ça met toujours un petit temps après à se réorganiser, à remettre du lien auprès de tout le monde. Donc c'est aussi une tactique qui est utilisée un peu de partout, de toute manière, casser un peu tout pour pouvoir foutre un peu le bordel, et puis après ça met toujours un peu plus de temps pour se réorganiser. Donc voilà, tout simplement sur Calais, la solution, il y en a pas, mais ils auraient bon construire tout ce qu'ils veulent et puis essayer d'empêcher les gens de passer. On peut pas empêcher les gens de voyager et de vouloir aller ailleurs. Il n'y a pas de solution à ça. Donc faudra voir du coup comment la situation continue là-bas. On sait qu'il y a pas mal de gens qui vont du coup de plusieurs villes, qui vont donner la main pendant un certain temps, qui reviennent après. Donc voilà, donc on va continuer à suivre toujours ce qui se passe là-bas.
Mais en ce qui concerne cette expulsion-là, il faut savoir que les gens se trouvent dans une certaine lassitude, puisque fin janvier, il y a déjà une bande de 100 mètres sur 100 mètres qui a été rognée. Et à cette occasion-là, ils ont fait preuve d'une grande coopération. Ils ont accepté de se déplacer d'eux-mêmes, de bouger leur abri, d'en reconstruire d'autres avec l'aide des associatifs. Vraiment en se disant que s'ils se montraient coopérants, ils seraient un peu mieux traités par la suite par les autorités. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc là, ils disent, on a déjà bougé il y a un mois. On nous demande encore de bouger. On nous dit que c'est que la zone sud. Mais ils savent très bien qu'à terme, c'est la totalité du bidonville qui veut le raser. Donc ils sont complètement désemparés puisqu'ils n'ont aucun autre endroit où aller. Donc certains se déplacent dans d'autres villes le long du littoral. Mais ils n'ont pas de solution et ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent rien attendre de la préfecture, même s'ils se montrent coopérants.
Oui, même s'ils font des efforts de leur côté.
Ouais, en plus, je crois que tu m'en avais parlé, c'était déjà une grosse provocation, parce que quand ils avaient rasé cette bande, ils n'avaient pas choisi n'importe quel endroit, il y avait des lieux de culte qui étaient placés...
C'est la particularité de la zone qu'ils sont en train de raser, c'est celle où il y a tous les lieux de sociabilité, les écoles, le théâtre, la plupart des cafés, des restaurants... des églises, des mosquées, enfin c'est toute la vie qui a réussi à être recréée dans cette détresse immense. Et bien c'est celle-là qui vise en premier lieu.
Pour essayer de dégoûter que les gens abandonnent du coup leur projet de départ en Angleterre.
On sait déjà qu'ils avaient mis des critiques sur le fait qu'il y avait des espaces justement de sociabilité qui se créaient et que du coup ça amenait à de l'autogestion et que c'était dangereux. On connaît leur méthode. Et du coup, au niveau du rapport avec les flics en général, bon, on sait que c'est toujours ultra violent. Et toi, tu l'as ressenti comment
Disons que les violences policières, elles ne sont pas liées particulièrement à cette situation d'expulsion. C'est quelque chose de systémique à Calais. C'est pas un acte isolé. Une fois de temps en temps, un policier qui pète un plomb et qui va tabasser un sans-papier. C'est tout le temps. C'est toutes les nuits. Et donc, expulsion ou pas expulsion, il n'y a pas de changement. Et ce qu'on a remarqué, en revanche, c'est que contrairement au mois de janvier, fin février et là, début mars, les gens sont beaucoup moins enclins à en parler, à témoigner. Donc, on n'arrive pas encore bien à identifier l'origine de cette réticence. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'il y a eu des intimidations? Est-ce qu'il y a des rumeurs qui disent que si vous parlez, il va vous arriver si... Mais c'est même des gens qui ne veulent plus se promener avec leur certificat médical fait par MSF suite à un matraquage par la police. Donc il y a la peur s'insuffle vraiment plus profondément dans l'esprit des gens. Et c'est ça qui est terrifiant.
Ok. Du coup, on voulait faire le petit lien aussi, parce que du coup, il y avait des manifestations qui étaient appelées, notamment à Paris, en soutien suite à l'expulsion de ce que la presse appelle la jungle Calais. Il y avait une première manifestation, un rassemblement le 1er mars, une manif le vendredi 4 mars dernier, au départ de la gare du Nord, et il y a un petit texte qui circule sur le net d'un membre du groupe Regard Noir de la Fédération Anarchiste. Donc je vais vous lire une partie. Donc en fait c'est son témoignage en fait de ce qui s'est passé lors de cette manifestation qui est assez intéressant. Cette manifestation classique étant déclarée en préfecture, on aurait pu s'attendre à un défilé calme en direction de République. Pourtant, à cause d'un certain nombre de provocations de la part de la police, il en a été différemment. En effet, dès le départ de la manif, les CRS décidèrent de se mettre en ligne sur les bords de la manif avec pour but de la suivre à l'allemande, c'est-à-dire de suivre le cortège à moins d'un mètre des manifestants. Cette provocation claire n'étant pas de suite contestée, une deuxième a suivi. Ces chers messieurs de la police nationale décidèrent donc que la manifestation se déroulerait à mi-chaussée. Pour ceux ayant passé le code de la route il y a un certain temps, la chaussée représente la zone de circulation des voitures et la mi-chaussée une zone ridiculement petite pour le déroulement d'une manifestation. Ce à quoi le groupe de réfugiés à l'initiative de l'événement décida de résister dans une démonstration exemplaire d'unité et de repousser les CRS, refusant leurs injonctions absurdes. Les flics, ne s'attendant pas à une telle résistance, abandonnèrent leur tentative d'invisibilisation du cortège, préférant se concentrer sur la meilleure manière d'arborer une tête de fierté froissée en retournant sur le trottoir. Suite à ça, la manifestation avança lentement mais sûrement en direction de la place de la République et ce malgré une tension dans l'air à couper au couteau et un certain nombre de coups de bouclier lorsque l'on passait à côté de ces fameux gardiens de la paix. Arrivé à République... Donc ce témoignage, donc j'allais déposer les drapeaux au local avant de revenir pour la dispersion. Pour ceux n'ayant jamais vu une dispersion de cortège de réfugiés, une certaine mise au point s'impose. Le but de cette dispersion est de profiter de l'absence de médiatisation et de soutien pour casser la volonté de protestation des réfugiés, ceci passant bien évidemment par leur casser la gueule. Pour parler plus concrètement, la stratégie entre guillemets, adoptée ici par les flics, a été de pousser la quarantaine de réfugiés et les quelques soutiens restants dans les escaliers de la bouche de métro, ce qui fut particulièrement idiot car, comme dit plus haut, le groupe de réfugiés en question était très uni, déterminé et habitué à ce genre de sale coup. Ils décidèrent donc de bloquer l'escalier, bloquant ainsi l'avancée des flics. Ces derniers entreprirent donc de tabasser méthodiquement le premier rang, coup de chance. Le premier rang en question était en grande partie composé de soutiens. Les flics ne pouvant donc pas frapper avec la même force et la même violence de peur des retombées médiatiques. Ce fut tout de même une sacrée pluie de coups qui nous fut adressée, que ce soit coup de pied, de poing ou même de tonfa dirigé en majorité à la tête. Pour rester dans le pléonasme, ce ne fut ni une expérience agréable ni une stratégie de maintien d'ordre efficace, car malgré ça, le groupe de réfugiés ne recula pas d'un centimètre, bloquant littéralement l'avancée des flics. Ces derniers décidèrent donc d'utiliser leur si chéri gaz lacrymogène. Nous fûmes donc obligés de descendre les escaliers, voire les dégringoler pour certains. Étant sévèrement touché par le gaz, je ne vis plus rien durant les minutes suivantes. Toujours est-il que lorsque j'émergeais de ce brouillard de larmes, la majorité des soutiens et des réfugiés commençaient à partir par les différentes sorties de la station, en emportant avec eux les blessés les plus graves. Ce qui est important de retenir de ce texte, c'est que ce genre de dispersion n'est pas une exception. Lorsqu'on est sans papier, c'est la norme. Les flics profitent de la situation précaire des réfugiés pour prendre des libertés qu'ils n'oseraient jamais prendre avec des blancs. Là où, dans une manif classique de gauchistes, ils évitent au maximum d'avoir recours à leur matraque, pas toujours le cas, hein, leur préférant la lacrymo, ce qui est plutôt vrai. Ils l'utilisent ici en premier choix. Mon cas est symptomatique, j'étais à un des endroits vraiment violents de la dispersion et j'en retire pourtant que peu de séquelles. Les flics rechignant à frapper ma tronche de Babtou et je ne peux malheureusement pas en dire autant pour le camarade afghan qui est à ma gauche. Cette violence systématique n'est pas gratuite, elle a une volonté politique, une volonté de casser les mobilisations. Elle est aussi utilisée depuis des années pour chasser les camps de réfugiés en plein Paris. Le degré de violence étant directement défini par le nombre de caméras et de soutiens présents, les dispersions de camps de cet été étant particulièrement médiatisées, on y observait moins de violence physique. En ce moment, les caméras sont dirigées vers la Macédoine, évidemment vers Calais. Il est donc important de garder une forte présence de soutien et de continuer à médiatiser envers et contre tous ces événements. Donc voilà pour ce témoignage-là auquel on qu'on rejoint évidemment. Je sais pas si on a une petite chose encore à rajouter ou si on se fait la deuxième petite pause musicale maintenant.
Ça dépend si on a encore un peu de temps ou pas. Je me rends pas compte.
On aura un petit peu de temps après encore. Félicitations.
Non, mais
vas-y.
On peut continuer un peu. Du coup, on peut reprendre parce que on en était rendu aux violences policières et aux violences psychologiques. Et du coup, on sait qu'il n'y a pas que des violences policières parce qu'on sait qu'il y a aussi pas mal de faf qui sont montés, de fachos qui sont montés là-haut.
Oui, fin janvier, il y a eu un pic d'intensité de violences policières. Et c'était des gens très organisés qui agissaient la nuit à une ou deux voitures, qui repéraient des exilés qui circulaient en centre-ville ou aux abords du bidonville et qui s'arrêtaient et qui sortaient des voitures, qui les encerclaient et qui les passaient à tabac de façon très violente à coups de barres de fer. Donc il y a pas mal de gens qui ont été hospitalisés dans des états très critiques. Et ce qui ressortait des témoignages de ces victimes, c'était des agresseurs habillés comme des policiers. C'est quelque chose qui a vraiment semé la confusion, parce que certains étaient persuadés que c'était des policiers en civil, et c'est ça qui les glaçait sur le coup, parce qu'ils avaient l'impression que c'était un policier qui arrivait, et comme ils ont beaucoup d'entre eux ont envie de montrer leur coopération. Sur le coup, ils étaient paralysés et incapables de se défendre. Et ce qui facilitait la chose, quoi. Ils étaient intimidés et ça a été très, très, très violent. Et il y a eu des interpellations à Dunkerque et à Calais aussi, des groupes de 7-8 personnes selon les villes.
C'est qu'on avait eu un petit témoignage il y a quelques semaines après la manifestation de soutien aux migrants et migrantes, et du coup avec des, je crois que c'était des Syriens qui étaient revenus au camp et qui s'étaient fait passer à tabac par des gens en uniforme sans un signe.
Oui, c'est ça.
Après, une uniforme, plus ça s'achète. Enfin, du coup, c'est pour ça que c'est aussi une des techniques des fachos, hein, notamment, hein, de se faire passer pour des flics à un moment donné. C'est que ça s'achète, donc on peut se balader avec son petit uniforme, une fausse plaque de police éventuellement, etc. Et c'est vrai que c'est aussi une des tactiques pour eux. Enfin, eux, c'est un peu la liberté totale, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir un peu faire ce qu'ils veulent. Les flics ne diront rien, à part vraiment s'il y a une limite qui est franchie, mais en tout cas, ils le feront avec l'approbation des forces de police. Donc, ils peuvent vraiment se gaver, entre guillemets, voilà, sur des migrants.
Il y a eu des situations où les forces de l'ordre étaient à proximité, ont été interpellées et n'ont pas appelé les secours, n'ont pas réagi. Et Et ce que notent la plupart des personnes agressées, c'est qu'il y a quand même une présence policière énorme à Calais. Et ils ne comprennent pas comment ils ne peuvent pas retrouver leurs agresseurs.
Oui, sachant que voilà, on sait qu'il y en a pas mal qui sont là-bas, mais ça, voilà, certains pas non plus. C'est pas des centaines de personnes, quoi. Voilà, donc voilà. C'est des petits groupes qui se baladent.
Si,
on sait qu'il y a des associations.
S'il y avait une réelle volonté de trouver les agresseurs, ça serait faisable assez rapidement. Et je voudrais juste revenir sur les violences psychologiques dont tu parlais, la spécificité de la façon dont ils s'y prennent pour démanteler le bidonville aujourd'hui. C'est que ça s'étale sur 3 semaines, a priori, d'après ce qu'ils ont annoncé. Donc c'est très lent. Ça permet à la chose de se faire oublier un peu dans le flot des informations. Et donc, voilà, passer les 2 premiers jours, on voit bien dans le bidonville, il y a déjà presque plus de journalistes qui viennent.
Depuis l'incendie, en fait. Quoi.
Mm-hmm. Et puis, c'est extrêmement douloureux pour les gens de voir ce front de destruction qui se rapproche de leur abri. Et puis, ils sont là. Est-ce que j'attends que ça me concerne et que ça et qu'ils viennent détruire ma maison, est-ce que je la brûle, est-ce que je m'en vais? Et oui, donc ça, ils savent aussi les pouvoirs publics savent qu'ils se facilitent le travail en faisant ça, parce qu'il y a des gens qui vont partir d'eux-mêmes parce que c'est trop douloureux d'attendre que ça arrive.
Tout ça, ouais. Tout ça, la même dynamique avec les campements de personnes roms dans les différentes agglos en France, quoi. C'est d'avoir qu'on laisse ces personnes s'installer, ils s'installent un lieu de vie qui est plutôt vivant. Voilà, parce que quand on y passe, voilà, on peut voir que c'est super vivant et compagnie. Et qu'il y a toujours cet argument d'insalubrité ou autre pour pouvoir à un moment donné les virer, tout casser et les faire recommencer à zéro, en fait. Et du coup, pour essayer de les dégoûter le plus possible pour qu'ils se cassent d'ici, en gros. Parce que pour eux, la solution, ça va être ça. Enfin, pour l'État et ses représentants, les flics, bah, c'est ça, en fait. C'est dégoûter les, presser le plus possible pour que ces gens, pour que ces personnes partent du territoire, ouais, pour ne plus avoir à gérer ça, quoi.
Oui, parce que tout ce qu'on leur propose, donc c'est des centres d'hébergement à Montpellier ou dans la Creuse ou des destinations aussi exotiques que ça. Et puis sinon, il y a le CAP, le camp, le centre d'accueil provisoire, les fameux conteneurs dont on a beaucoup parlé. Voilà, donc où il n'y a pas de douche, des points d'eau, mais froide. Donc pour un camp où il y a quand même certaines familles avec des enfants en bas âge qui sont accueillis, quand on connaît la température qui fait à Calais en ce moment, ça interpelle un peu. Et juste avant le début du démantèlement, ils ont installé des portiques de sécurité à l'entrée de ce cap, avec des tourniquets. Fermé de bas en haut, c'est vraiment.
Pour rentrer, du coup, il faut avoir pas une autorisation, mais il faut montrer.
Oui, ça devient de plus en plus difficile, du coup, pour les associatifs, les soutiens d'entrer à l'intérieur de ce camp. Oui, c'est impossible. C'est la croix et la bannière pour pouvoir rendre visite à quelqu'un. Vous êtes interpellé à chaque fois que vous faites 10 mètres. On vous demande qu'est-ce que vous faites là. Il faut sortir d'ici. Donc les gens sont de plus en plus isolés, alors que tout ce qui leur reste, on va dire, dans cette situation, c'est un peu de lien social.
Ouais. Ok.
Je vois qu'il reste pas longtemps. On a encore des points à aborder. On continue ou Il y a une ou deux infos.
Vas-y, oui, par rapport. Ouais.
Je viens de recevoir l'information que. Alors bon, il y a un groupe qui s'est monté sur le célèbre réseau social. Déjà, il y a beaucoup de lycéens qui étaient là aujourd'hui à la mobilisation, en fait, qui ont commencé à s'organiser et qui appellent au blocus de tous les lycées de Lyon à partir de demain. On sait que pour l'instant il y a le lycée Lumière, c'est sûr, mais pour les autres, on ne sait pas qui a répondu encore. Donc, ceux qui peuvent aller leur filer des coups de main, on espère que pour eux que ça se passera bien, quoi, et qu'ils arriveront à bloquer le plus de lycées possible.
Ben oui, et c'est l'occasion. C'est maintenant qu'il faut y aller. Hein, c'est ça, maintenant.
Quoi, voilà. c'est parti.
C'est open bar, on peut y aller. Donc voilà. Du coup, je regarde mon collègue. Ouais, j'enchaîne avec un petit sujet. Puis du coup, on reporte à la semaine prochaine ce qui nous restait. Du coup, moi, j'avais prévu un petit article là pour finir sur un autre thème, sur un peu la culture du viol en France, avec un article trouvé aujourd'hui. Voilà, avec pour 27% des Français. Toujours sur un sondage, l'auteur d'un viol est moins responsable si la victime portait une tenue sexy magnifique. Les viols ont beau faire tristement partie de notre quotidien, chaque jour 33 plaintes sont enregistrées en France. Ils sont encore bien mal perçus, y compris par une partie de la population. Stéréotypes sexistes qui perdurent, culture du viol, mise en cause des victimes. Le mercredi 2 mars, l'association Mémoire Traumatique et Victimologie relève les résultats d'une enquête réalisée avec un institut sur les représentations du viol et des violences sexuelles chez les Français. Eh ben, il en ressort que nous vivons dans une société où la méconnaissance de la réalité des violences sexuelles, de leur fréquence et de la gravité de leur impact traumatique conduit à les reléguer dans la catégorie faits divers, alors qu'elles représentent un problème majeur de santé publique et participent à la non-reconnaissance des victimes et à leur abandon sans protection ni soins. Première preuve de cette méconnaissance des violences sexuelles, les stéréotypes, qui perdurent sur les sexualités, entre guillemets, masculines et féminines, qui seraient différentes. Deux tiers des personnes interrogées pensent que les hommes ont une sexualité plus, entre guillemets, simple que les femmes, et presque autant que c'est plus difficile pour eux de maîtriser leurs désirs. Oui, forcément. Les femmes, elles, sont considérées comme plus sensibles, entre guillemets, que les hommes. Une grande majorité des Français, 76%, estiment que les femmes ont plus tendance à considérer comme violents des événements que les hommes ne perçoivent pas comme tels. Pour une plus faible partie des personnes interrogées, elles sont aussi considérées comme moins rationnelles, 42%, et moins sûres de ce qu'elles veulent que les hommes, 25%. Ça fait rire, mais c'est pas drôle du tout, parce que du coup, c'est encore des chiffres assez énormes. Cette croyance peut avoir des effets dévastateurs, expliquent les auteurs de l'enquête. Donner du crédit à ce type d'assertion revient à considérer que les femmes sont incapables de décider pour elles-mêmes et ont besoin des hommes pour comprendre quels sont leurs vrais désirs. C'est leur dénier la faculté de décider de consentir ou non à un rapport sexuel. Autre problème majeur, la culture du viol qui est définie comme l'adhésion de la société au mythe sur le viol. Un système que Muriel Salmona, la présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, décrit de trois façons différentes. Premièrement, entre guillemets, il ne s'est rien produit. C'est la victime qui est mise en cause et non pas l'agresseur. Deuxièmement, elle était en fait consentante, elle l'a voulu ou elle a aimé ça. Oui, il s'est passé quelque chose, mais elle est quand même coupable. Elle n'a pas résisté, elle devait bien le vouloir. Troisièmement, elle l'a bien mérité, elle est responsable de ce qui s'est passé. C'est l'idée selon laquelle les femmes aiment ça, qu'elles le cherchent en s'habillant de façon trop sexy et en raison d'autres stéréotypes sous-entendant que la femme est une prédatrice. Les chiffres présentés dans l'enquête viennent soutenir l'idée que la culture du viol est bien ancrée dans les mentalités. Ainsi, 19% des personnes interrogées considèrent que beaucoup de femmes qui disent non à une proposition de relation sexuelle veulent en fait dire oui. Ou encore 21% estiment que les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées lors d'une relation sexuelle. Conception à laquelle adhèrent près d'un tiers des jeunes de 18 à 24 ans. L'association tient à ce sujet à préciser que cette vision du viol est partagée aussi bien par les hommes que par les femmes. Dans ce système, les victimes sont souvent mises en cause à la place de leur agresseur. Pour une partie des personnes interrogées, la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a une attitude provocante en public, 40%, ou si elle portait une tenue sexy, 27%. 4 personnes sur 10, 41%, soutiennent également l'idée qu'on peut faire fuir le violeur si l'on se défend vraiment. Enfin, si les Français et Françaises sont presque unanimes, 96% pour dire qu'un viol est un comportement qui viserait à forcer une personne à avoir un rapport sexuel alors qu'elle le refuse et ne se laisse pas faire, le bât blesse quant à certains comportements qui ne sont pas considérés comme tels. Selon le code pénal, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Pourtant, selon l'enquête, 24% des personnes interrogées pensent qu'une fellation ou qu'un acte de pénétration avec le doigt ne sont pas des viols. Par ailleurs, l'idée selon laquelle l'agresseur est un inconnu est encore très précise. Très persistante, 44% des Français françaises le pensent et 17% estiment que forcer sa conjointe à avoir un rapport sexuel n'est pas un viol. Pourtant, dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur. Ici encore, il s'agit du mythe du vrai viol qui perdure. Vrai viol entre guillemets, hein, bien sûr. Les auteurs de l'enquête reconnaissent que les mentalités évoluent. L'impact des viols notamment est largement reconnu par les Français. 95% d'entre eux sont convaincus que les violences sexuelles ont de graves conséquences sur la santé des victimes. Mais ces chiffres montrent que la culture du viol ainsi que les mythes et les fausses représentations qu'elles véhiculent semblent malheureusement avoir de beaux jours. Malheureusement, donc il y a toujours là un gros travail à faire également là-dessus. Donc voilà pour ce dernier petit article. Bah voilà, on est nickel, hein, on est à peu près à l'heure.
C'est ça.
Ah, j'ai fait tomber mon iPod. C'est pas grave. On va vouloir vous rappeler juste rapidement, si je retrouve tout ça, la liste de toutes les mobilisations. Bon, on a eu à la fin des appels à blocage dans les lycées dès demain.
Demain.
Voilà, donc n'hésitez pas à faire bouger tout ça dans votre bahut. Le 12 mars, appel national contre l'état d'urgence. Qui rassemblera sûrement d'autres thématiques que l'état d'urgence, voilà, parce que à mon avis tout va se lier maintenant. Le 15 mars, mobilisation pour la sauvegarde de la convention collective 66. Le 22 mars, grève dans la fonction publique. Le 23 mars, grève nationale à la poste. Et le 31 mars, journée de mobilisation interprofessionnelle, avec sûrement d'autres rendez-vous qui vont s'intégrer, entre ces rendez-vous-là, voilà, pour que ça prenne vraiment et que voilà, le retrait de loi et d'autres choses sautent définitivement.
C'est ça.
Voilà.
Très bien. Beau.
Bah, je crois que j'ai fini. On va pas lancer le générique. On vous rappelle les permanences à la Plume Noire. Il y aura peut-être qu'une toute petite permanence ce samedi, parce que comme il y a manifestation, c'est 14h30 à Zétéro.
Par contre,
du coin direction de Bellecour, quand c'est comme ça, bah il y a pas de permanence à 15h. On ouvre un peu plus tard, généralement en fin de manif, donc plus vers 17h30 ou 18h, ou pas de perm du tout selon ce qui se passe. Voilà, à la fin de la manif, on vous rappelle quand même les horaires normaux, 15h, 19h pour le samedi, 17h, 19h pour le mercredi. Les cours de langue en soutien aux migrants-migrantes ont toujours lieu à la Plume Noire les lundis à partir de 18h. Ouais. Et vous pouvez nous suivre sur le Facebook, le site et... local. Et vous aviez autre chose à rajouter. Mais vous...
Et la collecte continue aussi toujours.
Et la collecte aussi,
la
voilà,
Plume Noire,
pour les migrants,
tout,
voilà, n'hésitez
les
pas. De la Plume.
C'est bien. Voilà. Parfait.
Eh ben, vous souhaite une
on
bonne soirée.
On a rempli le contrat.
À tous. Ouais,
tout à fait.
On va se reposer.
Mais on vous dit quand même à mercredi.
On vous dit à bientôt,
surtout. La...
Dans la rue,
la
à la
suite,
radio, de partout.
À la lumière du frigo, donc ça, juste ouais. derrière, qui est prêt à lancer son excellent générique. Après notre excellent générique que j'envoie tout de suite et maintenant, donc à mercredi. Salut à toutes et à tous.